partons flâner au musée du Quai Branly pour découvrir l'exposition intitulée « Le fil de la mémoire et autres photographies » qui s'y tient actuellement jusqu'au 20 novembre 2022. Les troublants tissages photographiques de l'artiste vietnamien Dinh Cu Le nous conduiront à explorer non seulement l'histoire du Vietnam et du Cambodge, mais également les confins de la mémoire. Nous pénétrons dans le musée du Quai Branly. Nous marchons le long de la rampe, au long de ce long chemin sinueux qui monte en spirale. Nous sommes immergés dans un fleuve de mots en mouvement. 16 597 noms de tous les peuples et lieux géographiques présents dans les collections du musée. La richesse des cultures s'écoule. La richesse des cultures s'écoule comme l'eau. Nous venons de traverser l'installation de Charles Sandison, intitulée The River, la rivière, et nous continuons notre parcours le long de l'allée centrale, elle aussi conçue à l'image d'une rivière. Nous apercevons sur notre gauche des œuvres de Melanesi, avant d'emprunter un escalier qui nous conduit aux confins du musée, à la galerie Marc Ladret de la Charrière. Nous sommes maintenant dans un espace inauguré en 2021 et dédié à des expositions temporaires. Des expositions temporaires destinées à offrir un regard singulier sur l'histoire des arts non occidentaux. Les œuvres de Dinh Cu Le, ici présentes, s'intègrent parfaitement dans ce projet. L'exposition Le fil de la mémoire et autres photographies est soutenue elle aussi par le fonds de Marc Ladret de la Charrière. Nous sommes aux confins du musée, nous sommes aux confins du monde. L'éclairage est tamisé et nous découvrons une vingtaine d'œuvres de l'artiste Dinh Cu Le, internationalement reconnu depuis les années 1990. Il expose ici, dans son musée préféré, je le cite. Il y vient chaque fois qu'il est de passage à Paris et il voyage beaucoup. La commissaire d'exposition Christine Barthes a voulu nous donner à voir une forme de rétrospective, nous montrer en profondeur sa manière de travailler depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Les premières œuvres s'imposent à nous par leur dominante orangée et elles nous intriguent par leur matérialité. Une matérialité liée à la technique utilisée par Dinh Cu Le. Chaque œuvre de cette série consiste en un tissage de plusieurs photographies. Le tissage de photographie. C'est là son principal dispositif de création. Le mot revient sans cesse dans ma tête, dit-il. Pourquoi le tissage est naturel pour moi? Parce que quand j'étais enfant, j'ai appris à tisser des nattes avec ma tante. Il faut l'imaginer, assis en tailleur, pieds nus, sur ces immenses photos posées à même le sol, découpées avec soin en fines bandelettes, il faut l'imaginer, les tissant patiemment et dans la plus grande concentration, comme sa tante tissait l'osier. Son travail aboutit en quelque sorte à des canevas géants constitués de longues bandelettes de photos coupées régulièrement et entrelacées les unes les autres. Avec une grande régularité, avec une grande perpendicularité. Écoutons-le décrire son geste, ce geste ancestral de tissage. Un geste qui ici allie tradition, mais aussi modernité, inventivité, créativité. J'aime faire le tissage moi-même, si mon dos le permet. C'est un travail intense, qui peut être douloureux. Mais c'est aussi très apaisant. Je tisse ici et je dois rester très concentrée parce qu'une fois les bandes coupées, elles deviennent complètement abstraites et il faut se rappeler quelle partie correspond aux yeux, à la bouche, au nez. Il y a tous ces petits détails auxquels il faut prêter attention Alors, on commence à se focaliser totalement sur l'image, à la façon dont on veut la faire fusionner, comment on veut qu'elle soit tissée, ce qui demande d'entrer dans une sorte de méditation via une focalisation intense. C'est quelque chose que je trouve très apaisant dans le processus. Calme, sérénité, méditation, concentration, intensité, apaisement. Dinkulé évoque ainsi son geste créatif, le tissage. La première œuvre qui nous accueille pourtant est d'une extrême violence. Sur un fond orangé où l'on distingue à peine l'arrière-plan, de nombreux parachutes dans les mêmes tons jaunes-orangés. Un homme, de profil, braque son revolver sur la tempe d'une femme qui nous fait face. Le tissage est sous-vert, encadré de blanc. L'œuvre mesure 1,70 m de long sur 85 cm de haut. Les personnages sont en buste, plus grands que nature. Monumentaux, ils s'imposent à nous. À mieux regarder, nous découvrons que cette image de cet homme de profil qui braque son revolver sur la tempe de cette femme est comme dédoublée. C'est comme si deux images, légèrement différentes, mais représentant une scène très proche, très analogue, avaient été superposées avec un léger décalage sur le côté. Une des photos est en couleur et l'autre en noir et blanc. À gauche de l'image, l'homme de la photo couleur porte un chapeau blanc qui se détache nettement du fond orangé. Les deux hommes ne tiennent pas tout à fait de la même façon leur revolver. Celui de la photo en noir et blanc place l'arme au plus près du visage de la femme. La tension, la menace, la violence du geste s'en trouvent accrues. La femme en noir et blanc au premier plan nous fixe. Son attitude, calme, stoïque, témoigne de son courage et de sa fierté. Celle de l'arrière-plan, en couleur, ferme les yeux, dans un geste d'acceptation de son destin, peut-être. Le tissage donne à l'image un aspect fragmenté, pixelisé. On pourrait dire qu'elle perd en lisibilité. Il est notamment très difficile de discerner les traits des hommes. Pourtant, l'image gagne en sens. Nous sommes devant l'œuvre Untitled Nine from Vietnam to Hollywood, son titre 9 de Vietnam à Hollywood, datant de 2004. La photo couleur est un cliché hollywoodien, la photo noir et blanc est quant à elle un cliché historique de la guerre. Dinkulé confronte l'image photographique et l'image d'archive. Il fait le choix de les découper, de les mêler, de les entrelacer. Il compose avec des images de registres différents. Il en résulte une image ambiguë, ambivalente, riche de sens. Dinkulé joue également avec les couleurs. Cette couleur orangée, typique des couchers de soleil d'Hollywood, est aussi à mettre en lien avec le feu et le napalm, surnommé Agent Orange. Le contraste entre cet orange et la photo noir et blanc déroute. Il veut nous dire le chaos de la guerre. Il exprime la secousse, l'onde de choc. Les couches viennent donner donc de la complexité. Propagande, idées fausses et réalité de la guerre se juxtaposent, se superposent, se mêlent. L'épaisseur matérielle de ce tissage, qui nous éloigne de la platitude de l'objet photo, nous livre une grande profondeur de sens. La fragmentation, la pixelisation viennent créer quelque chose de différent. Dinkulé ne travaille pas avec ses propres photos, mais avec des photos de famille, photos intimes, photos vernaculaires, clichés de presse, images d'archives, parties d'affiches, images cinématographiques, extraites de films comme Apocalypse Now, Indochine. Toutes ces images, il se les réapproprie, il les détourne, il change ce qu'elles signifient en les mettant dans un autre environnement, Il déconstruit pour reconstruire et recomposer. Recomposer des paysages surréels, à mi-chemin entre documentaire et fiction. C'est un peu comme un palimpseste, comme un parchemin dont on a effacé la première écriture, pour pouvoir écrire un nouveau texte, pour ajouter un nouveau point de vue, pour livrer une autre vérité. Cet acte de couper une image en fines bandelettes pourrait paraître violent. Pour Dinkulé, ça ne l'est absolument pas. Il considère que l'image n'est pas sacrée et qu'elle est imparfaite. Il va même plus loin. Je me souviens avoir ressenti que la photographie avait menti. Il parle donc ainsi de son geste. Pour moi, il s'agit d'un geste qui consiste plutôt à compléter qu'à violenter. Je décompose les images pour les réassembler ensuite. Je peux littéralement couper les images et tisser les autres récits en les insérant de cette façon. Tisser les autres récits, nous y voilà. Telle est la quête de Dinkulé. Il décrit lui-même ainsi sa série « From Vietnam to Hollywood ». Un enchevêtrement de souvenirs personnels, de souvenirs issus des médias et d'autres forgés par Hollywood, visant à créer un paysage mémoriel surréel qui ne soit proprement ni document ni fiction. J'ai également souhaité que la série parle de la lutte entre ces trois sources pour contrôler l'interprétation de la mémoire de la guerre du Vietnam. Hollywood et les médias américains tentent en permanence de déplacer et de détruire nos souvenirs du conflit pour imposer à la place leur version de l'histoire. Vous l'aurez compris, Dinkulé est un artiste engagé, militant pour une plus grande impartialité dans la narration de la guerre du Vietnam, pour le respect des souvenirs des Vietnamiens. L'ethnologue Catherine Choron-Bey nous confirme que certaines œuvres de Dinkulé sont véritablement une mise en accusation du pouvoir médiatique, capable de substituer sa version imaginaire et spectaculaire de la guerre aux souvenirs de ceux qui l'ont vécu. Dinkulé cherche à nous dire que la guerre du Vietnam ne doit pas et ne peut pas se résumer à un seul point de vue, celui des Américains. La guerre est complexe. Il y a certes le point de vue des Américains, vaincus, ne l'oublions pas. Le point de vue hollywoodien. Le point de vue des Nord-Vietnamiens qui font de la guerre la légende d'une lutte héroïque, révolutionnaire, l'acmé triomphal du rejet des envahisseurs et des colons étrangers, selon les propres mots de l'artiste. Le point de vue des Sud-Vietnamiens, un récit éclaté, souvenir de perdants, toujours selon les dires de l'artiste. Son propre point de vue et tous les autres points de vue. Je suis un collagiste, je m'empare d'images distinctes et en les réunissant, j'intègre de nouveaux éléments qui ont été écartés, afin que les gens aient une vision plus complète de la situation et de ce que j'essaie de montrer. Il ajoute, « Trop souvent, nous avons vu notre histoire racontée par d'autres que nous, ou mise de côté. Il veut rétablir une autre vérité. » Dans un désir obstiné de comprendre, il choisit de donner la parole à ceux que l'on n'entend jamais. Il propose des alternatives au récit hollywoodien. Comme le dit la commissaire d'exposition Christine Barthes, l'humanité de la « petite » entre guillemets histoire individuelle que fait apparaître Dinkulé offre un contrepoint extrêmement juste au « grand » entre guillemets récit hollywoodien dans lequel les Vietnamiens ne sont que des victimes impuissantes ou des figurants privé de parole. Au fil de son œuvre, au fil de ses tissages, l'artiste cherche aussi à nous dire que le Vietnam n'est pas seulement le nom d'une guerre, mais que c'est avant tout le nom d'un pays, de son pays d'origine, du pays où il a choisi de retourner pour vivre. Lorsque j'ai migré aux États-Unis à la fin des années 1970, je crois que j'ai compris comment le monde nous voyait. Voyait le Vietnam, me voyait. C'était au travers de photographies de guerre. Ces photos ne racontent qu'une certaine histoire. Qui je suis, ce qu'est le Vietnam, c'est bien plus complexe que cela. Nous ne sommes pas qu'une guerre. Nous sommes bien plus qu'une guerre et nous ne sommes pas que des victimes. C'est sans doute le moment de faire un point sur sa biographie, d'évoquer sa vie, son parcours. Dinkule est né à Hà Tiên, au Vietnam, en 1968. Le Vietnam est alors en guerre. Hà Tiên est une ville frontière située à 1,5 km du Cambodge. Les échanges entre ces deux pays sont alors intenses. Les allées et venues incessants, les frontières poreuses. Les deux pays sont réellement imbriqués. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir. Le Cambodge se ferme, les échanges deviennent impossibles. Le 30 avril 1975, Dinkule a 7 ans. Au Vietnam, c'est la fin de la guerre. Ses parents pensent que la paix est revenue. Ils décident de rester. En 1978, Dinkule a 10 ans. Sa ville natale, Hà Tiên, est envahie et détruite par les troupes de Pol Pot. La famille de Dinkule doit fuir. Dans un premier temps, suite à cette invasion par les Khmers rouges, Din et les siens se réfugient dans des abris de fortune au bord de la mer. Puis, tandis qu'ils traversent la plage pour rejoindre les bateaux, ils subissent les tirs du régime communiste du Nord-Vietnam qui interdisait alors à tout Vietnamien de quitter son pays. Ils parviennent pourtant à se réfugier dans un camp en Thaïlande. Ils y séjournent pendant presque un an, avant d'être finalement accueillis aux États-Unis en automne 1979. « Nous avons été chanceux, nous l'avons fait », dit-il. Il décrit ainsi sa jeunesse aux États-Unis. « J'avais parfaitement adopté le mode de vie américain. Mais les études universitaires provoquent une prise de conscience. » L'enseignement qu'il reçoit en Californie est marqué par la partialité, notamment en ce qui concerne l'histoire récente et les événements contemporains. « Nous avons entendu parler des Vietnamiens pendant 2 jours, dit-il, et les 10 semaines suivantes, il n'a plus été question que des souffrances des soldats américains. Face à ce déni de l'histoire, il éprouve un profond sentiment de différence. » Il poursuit ensuite ses études à New York, et en 1993, à l'âge de 25 ans, il reçoit une bourse du Fonds national pour les arts des États-Unis. Une bourse pour aller au Vietnam, pour étudier le travail des photographes communistes pendant la guerre. 1993, c'est donc la première fois qu'il revient au pays, depuis leur départ, depuis 15 ans, depuis 1978. Il se fait alors traiter de Viet Cue, appellation péjorative dans les années 1980-90, qui signifie « Vietnamien de l'étranger », « Vietnamien en résidence temporaire ». Sa communauté voit en lui un autre. Il est également pour lui difficile d'accepter la réalité de ce qu'est devenu son pays depuis la fin de la guerre. Un pays dirigé par un parti unique et autoritaire, le Parti communiste. Un pays où les activités culturelles sont contrôlées, censurées. Il s'interroge sans cesse sur le sens de l'étiquette vietnamien que les Américains lui attribuent. Il est toujours à cheval entre l'univers occidental et vietnamien. Il fait une série de voyages exploratoires vers sa terre natale, mais aussi au Cambodge. Il poursuit inlassablement sa quête identitaire. Progressivement, ses séjours se font de plus en plus longs. En 1997, à 29 ans, son choix surprend. Il décide de s'installer définitivement à Ho Chi Minh. Il a déjà une certaine réputation sur le marché de l'art. C'est un moment décisif de sa carrière. Ho Chi Minh devient le lieu où il crée, où il exécute ses nouveaux projets. Pourquoi ce choix surprend ? Son choix est audacieux et paradoxal, car il s'installe dans un lieu où l'art est encore censuré. Il préfère d'ailleurs ne pas exposer au Vietnam pour ne pas avoir à s'adapter à l'idéologie. Mais il dit qu'il y vit une expérience d'être dans la majorité et que ça lui donne une plus grande liberté. Si les États-Unis restent le lieu où il opère l'essentiel de ses transactions avec le marché de l'art, il s'investit très fortement dans la communauté artistique vietnamienne. Et en 2007, il cofonde avec 3 autres artistes établis à Ho Chi Minh-ville la galerie San Art. San Art est à la fois un lieu d'exposition, de conférence, de résidence, une tribune sur l'art contemporain. San Art joue un rôle capital sur la scène artistique vietnamienne. Dinh Culé devient le moteur de ce changement. Et on assiste aujourd'hui à l'explosion des avant-gardes, des artistes gagnant en visibilité, en crédibilité. Après cette brève parenthèse sur sa vie, retournons au musée du Quai Branly pour progresser plus avant dans l'exposition. Nous sommes maintenant au Cambodge. Le Cambodge dont il dit qu'il a joué un rôle déterminant dans sa vie, plus même que la guerre du Vietnam, parce que c'est ce qui a vraiment poussé sa famille vers l'Amérique. Ce Cambodge s'est imposé à lui dès son premier retour au pays, dès 1993. Il raconte ainsi. Ensuite, lorsque je suis revenu au Vietnam pour la première fois en 1993, je suis allé voir ma ville natale et les souvenirs, l'horreur de l'invasion, sont revenus. Et je crois qu'une partie de moi s'est dit « Il faut que tu retournes au Cambodge, il faut que tu ailles voir, apprendre et comprendre tout ça. » Pourquoi c'est arrivé ? Nous sommes donc au Cambodge. Nous entrons dans un univers où les œuvres sont monochromes, certaines dans des camaïeux de gris, d'autres dans des tons de bleu profond. Nous nous arrêtons devant une œuvre monumentale, 3 mètres de long sur 2 mètres 20 de haut, teinte grise, noire, argentée. Nous sommes à nouveau devant une œuvre tissée, mais contrairement aux œuvres de la série From Vietnam to Hollywood, elle n'est pas sous verre, ni dans un cadre. Les tirages photographiques découpés et tissés ont été montés sur des bandes de toile de lin. L'effet de tapisserie, de tenture, est encore amplifié par l'espace laissé à dessein entre l'œuvre et le mur. Nous sommes littéralement au pied du temple d'Angkor Wat. Nous plongeons dans l'histoire du Cambodge. Les reliefs se déploient devant nous, quasiment grandeur nature. Ils se déroulent en frise, sur 2 niveaux, sculptés dans le grès et séparés par une saillie de mur. Sur 2 niveaux, le sujet présente des analogies. Il s'agit d'un convoi militaire, d'une armée en marche. Au premier plan, des hommes à pied précédés d'un cavalier. Nous remontons le cortège. Nous passons devant des militaires armés de lances, puis devant des prisonniers liés entre eux, au niveau de leur cou, par une corde. À l'arrière-plan, des personnages aux attitudes fières et puissantes chevauchent des éléphants. Tout exprime pouvoir, puissance. Puissance évocatrice de la grandeur de l'Empire Khmer. Nous sommes au début du XIIe siècle. Le roi Suryavarman II dirige l'Empire et fait construire ce temple, alors dédié au culte hindou. Nous sommes devant le plus grand monument religieux du monde, le mieux préservé de la ville d'Angkor. La commissaire d'exposition, Christine Barthes, parle d'un silence palpable. Elle dit « Le visiteur fait face au silence du passé et de la ruine. Cette absence de son contribue à la perception de l'œuvre comme monument. Une surface sur laquelle un passé est inscrit et se raconte sans bruit, requérant l'attention. » Angkor Wat symbolise bien sûr, par ses dimensions et sa beauté, le pouvoir des nouveaux rois. Il incarne un passé monumental. Angkor Wat est l'archétype de l'architecture khmer. Il est aujourd'hui le symbole du Cambodge. Il figure sur son drapeau national. Splendor, splendeur. Ce chantier pharaonique a épuisé des milliers d'ouvriers. Ce pouvoir a fait des victimes. Certaines sont même figurées ici. Darkness, obscurité. Splendor and Darkness, splendeur et obscurité, tel est le titre de la série de Dinh Culé. Ici, le cartel nous indique que nous sommes devant l'œuvre Splendor and Darkness, number 32, numéro 32, datant de 2017 et faisant partie de la collection du Singapore Art Museum. En marchant, en arpentant la façade de ce monument, En observant les détails de ces bas-reliefs profondément taillés dans le grès, nous découvrons autre chose. Nous découvrons quatre portraits monumentaux entremêlés dans ces reliefs. Deux hommes, deux femmes. Ils ne viennent pas se fondre. Au contraire, ils surgissent. Nous marchons pour mieux les appréhender. L'œuvre est comme cinétique. Ces portraits qui font peut-être un mètre de haut sont hors d'échelle, pleins de grandeur. Les photographies se mêlent. En haut à gauche, la végétation luxuriante figurée en relief sur l'édifice fusionne avec la chevelure du jeune homme. En dessous, une masse sombre, un autre portrait, plus lisible par son contour, sa forme, son ombre, que par ses traits. À sa droite encore un autre portrait monumental. Il est parfois difficile de les décrire. Ils semblent apparaître et disparaître au gré de nos pas. L'œuvre est comme cinétique. Elle nous convie à nous déplacer pour mieux la découvrir. Les portraits sont alors comme des apparitions. Nous avançons encore. Nous levons les yeux vers le quart supérieur droit de l'œuvre. De ce point de vue, les reliefs du monument semblent presque effacés. L'artiste, par le tissage de papier brillant, de papier d'aluminium, leur a substitué un motif de fleurs à quatre pétales, très géométrisé et stylisé. Les reliefs semblent s'être effacés pour mieux donner à voir le portrait de cette personne dont l'acuité et le désespoir du regard nous saisissent. Eunice Kong en parle ainsi. Les prisonniers sont présents tout en n'étant plus là. Les morts continuent à vivre, ils nous hantent, ils nous somment de ne pas les oublier. Ces portraits ne sont pas des photographies prises par l'artiste. Ces portraits sont des images existantes. Ces portraits sont des images d'archives que nous pouvons voir au musée du génocide Tuol Sleng à Phnom Penh. Ces portraits nous disent l'horreur de ce que ces hommes et ces femmes ont traversé, une horreur qui s'est achevée dans la mort. Ce musée du génocide Tuol Sleng, ce lieu de mémoire, ce site qui sert aujourd'hui de mémorial aux victimes, aux personnes persécutées et assassinées sous le régime des Khmers rouges, prend place dans l'ancienne prison S21, la plus connue des quelques 196 prisons que la dictature communiste des Khmers rouges avait disséminées à travers le Cambodge durant les années 1970. Dans cette ancienne école transformée en prison, environ 18 000 personnes ont été détenues, seulement 7 ont survécu. Cette ancienne prison, S21, est un des centres d'interrogatoire et d'extermination les plus connus du régime kampuchéen démocratique, nom officiel du Cambodge entre 1975 et 1979. Cet ancien lycée avait été transformé en une machine de mort avec élimination systématique des prisonniers. À te supprimer, nulle perte, à te garder en vie, nul profit, dit un slogan Khmer Rouge. Tuol Sleng abrite le fonds documentaire le plus complet sur le système carcéral du Cambodge dirigé par les Khmers rouges. Tuol Sleng abrite le récit de cette terreur. Eunice Kong, professeur d'anthropologie au Trinity College à l'Université de Cambridge, nous donne un éclairage supplémentaire sur ce fonds documentaire. Je le cite. « L'héritage de la tradition archiviste française est très marquant dans ces images. Les cadres du régime de Pol Pot avaient été éduqués en France et ils étaient obsédés par l'archivage. Ils utilisaient des techniques très modernes pour ficher les captifs aussi bien que pour enregistrer leurs propres faits et gestes. » Christine Bard d'ajouter « N'oublions pas qu'Alphonse Bertillon, l'inventeur de la photométrie criminelle, était un Français. Le registre photographique constitué par les Khmers rouges s'inscrit dans le droit fil de cette innovation technologique. Je vous livre ces informations pour que vous puissiez mieux appréhender les circonstances dans lesquelles ces photographies ont été prises et que vous puissiez mesurer la force de ces portraits, de ces photographies de victimes prises par leurs tortionnaires. » Christine Barth nous livre son analyse. Dinkulé accorde une nouvelle vie, une forme de liberté à ces images engendrées par une pratique implacable de contrôle et de déshumanisation. Elle ajoute, Dinkulé nous donne une nouvelle présence, celle de fantôme qui refuse l'oubli. Dans ce tissage, dans cette série Splendor and Darkness, Dinkulé donne de la visibilité, de la présence à ces personnes passées sous la torture et tuées. Il n'y a pas de hasard dans le choix des photos sélectionnées par Dinkulé. Il nous propose donc également de faire le lien entre cette barbarie contemporaine et celle visible sur les parois sculptées. Si Twelsling est aujourd'hui un mémorial, un lieu qui commémore les victimes, l'œuvre de Dinkulé est quant à elle à la fois monument et mémorial. Monument qui célèbre la splendeur de l'Empire Khmer, Splendor, et mémorial qui donne à voir les atrocités commises, Darkness. Splendor and Darkness. Des mots contradictoires qui témoignent des deux extrêmes dont nous sommes capables. Pour cette série Splendor and Darkness, Dinkulé a choisi des supports différents. Parfois des papiers argentés, parfois transparents, parfois miroitants, parfois bleu mat comme des cyanotypes. Parfois les bords sont brûlés en lien avec le passé traumatique. C'est le cas pour l'œuvre que nous venons d'évoquer. Parfois, il laisse des franges en partie basse. Cela donne un aspect encore plus flottant aux images. Dinkulé est en train de tisser l'histoire. C'est comme si l'histoire n'était pas finie d'être racontée. Dinkulé parle aussi de ces tissages comme d'une matérialisation, une concrétisation de notre processus mémoriel. Imaginons que nous sommes un touriste qui visite dans la même journée les temples d'Angkor et le musée du génocide. Quelque temps plus tard, dans notre mémoire, dans notre banque d'images, c'est ainsi qu'il la définit, il se peut que des images se mêlent, se tissent. Les œuvres de Dinkulé, ces tissages, peuvent donc être perçus comme un reflet, une expression de notre processus mémoriel. Ce travail sur le Cambodge, il l'a commencé il y a plus de 20 ans. Il travaille par série, il arrête, il reprend, il reprendra toujours. C'est comme ça que c'est devenu une obsession, mais aussi une façon d'assimiler ce qui s'est passé. En apprenant, en comprenant, je me suis comme réapproprié toute cette histoire, dit-il. À ce stade, je souhaiterais exceptionnellement évoquer une série d'œuvres plus anciennes, qui ne sont pas dans l'exposition, mais qui sont en lien avec les œuvres que nous venons d'évoquer et dont la démarche, je suis sûre, va vous passionner. Une série qui participe de la quête inlassable de l'artiste, ce même sujet du Cambodge, une série en lien avec la mémoire, une série datant de 2001, intitulée « The Texture of the Memory », la texture de la mémoire. Une série d'œuvres à toucher. Son idée ? Toucher un être touché. J'ai voulu que les spectateurs déchiffrent l'œuvre comme du braille. Ce sont ses dires. C'est un travail qu'il entreprend après avoir appris qu'il existe de nombreux cas de cécité hystérique consécutive au génocide parmi les femmes cambodgiennes émigrées. Ce que l'on qualifiait alors de cécité hystérique est maintenant officiellement désigné comme un trouble de conversion. Les patients atteints croient qu'ils ont une incapacité à voir alors qu'en réalité leur vue est physiologiquement préservée. Le traitement repose généralement sur celui de leur détresse psychologique sous-jacente. The texture of the memory. Dinkulé reprend la formule de James E. Young, The texture of the memory, qui dans son essai analyse la façon dont les différentes nations se souviennent de l'Holocauste, dans les mémoriaux, dans l'art public, en fonction de leurs traditions et de leurs idéaux. Avec la série de Dinkulé, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas exposée au musée du Quai Branly, nous ne sommes pas dans le domaine de l'art public. Nous plongeons à nouveau dans l'histoire individuelle. Nous sommes dans l'art du portrait, nous sommes dans le monochrome, un monochrome poussé à l'extrême. Sur des pièces de soie blanche, il brode les portraits des hommes et des femmes assassinés au Cambodge par les Khmers rouges. Ici encore, il reprend les photos d'archives. Il brode les clichés d'interrogatoire. Durant l'exposition de l'œuvre, nous dit-il, les spectateurs seront invités à toucher les parties brodées de fil blanc qui s'assombriront par l'effet du frottement. The texture of the memory. Au fil du temps, les images deviendront plus nettes, plus distinctes, pareilles en cela aux grains lustrés des bas-reliefs d'Angkor Wat. Il ajoute, ainsi, la trace mémorielle devient matière palpable. The texture of the memory. Les figures émergent au fil du toucher. Le palpable, le tangible, devient visible. Dinkulé nous propose en quelque sorte une anamnèse. Il nous invite à faire un geste qui active notre mémoire. Au toucher, le passé oublié ou refoulé s'imprime sur la toile et s'inscrit de manière plus vive dans notre mémoire. The texture of the memory. Nous pouvons toucher le passé et il peut nous toucher, parce que jamais rien ne meurt. Je reprends ici le titre du livre de Viet Thanh Nguyen sur le Vietnam, Mémoire de guerre. Jamais rien ne meurt. Terrifiant et réconfortant à la fois. La démarche de Dinkulé dans les différentes œuvres que nous avons évoquées aujourd'hui, extraites des séries From Vietnam to Hollywood, Splendor and Darkness et The Texture of the Memory, est marquée par la culture traditionnelle vietnamienne où oublier quelqu'un revient à l'abandonner. Elle s'inscrit dans l'importance, le respect, la reconnaissance due aux ancêtres. En 2001, Dinkulé confie lors d'une interview à Moira Ross qu'il rapporte chaque fois d'Amérique une poignée de terre qu'il jette dans les eaux du Mékong, espérant ainsi apaiser les âmes errantes des soldats disparus dans la jungle. Plus de 3 millions de Vietnamiens et plus de 2 millions de Cambodgiens sont morts pendant la guerre du Vietnam et le génocide cambodgien, des civils en grande majorité. Nous sommes très loin du mémorial des anciens combattants du Vietnam aux États-Unis, dessiné par Maya Lin et achevé en 1982. Ce mur de granit noir de Bangalore, ce mur au poli parfait, long de 150 mètres, où les 58 193 Américains tués ou portés disparus sont dénombrés, nommés et gravés. Nous sommes loin de ce mur qui lui aussi se prête au toucher. Les morts du Vietnam et du Cambodge, impossible de les décompter précisément, de les dénommer. Dinkulé les accepte dans leur anonymat, dans ces tissages, dans ces images hybrides lourdes de sens, il redonne vie à ces âmes errantes, à ces Hoan Hon. Il rend la parole à ces victimes disparues, à ces morts solitaires, oubliées. Les œuvres de Dinkulé sont un travail mémoriel, et je conclurai avec cette phrase de l'artiste. Je sens que pour guérir les maux de guerre, nous devons venir en aide à tous ces Hoan Hon, ces âmes égarées. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de juillet 2022 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Nous devons la musique qui nous a accompagnés à l'artiste vietnamienne Trieu Nguyen, qui joue ici d'un instrument traditionnel, le Dan Tran.